Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Alors, encore des bonnes et des moins bonnes nouvelles toujours dans cette émission pour la dignité.
Voilà, toujours des bonnes et puis des moins bonnes bien sûr. Je vais vous proposer pour cette émission de parler de ce qu'on appelle les minerais du sang. Peu de personnes savent ce que c'est exactement, donc je vais éclaircir un petit peu cette expression. Voilà. Oui. Et puis je vous donnerai le témoignage d'une famille syrienne en Norvège. Ensuite, on écoutera un spot que l'on peut trouver sur le site amnesty.fr qui est lu par François Morel et qui s'appelle « Crapules et vacances ». Ensuite, je vous donnerai des avancées, des résultats que nous avons obtenus tous ensemble. On parlera un petit peu de la lutte contre la peine de mort puisque le 10 octobre, c'était la journée mondiale contre la peine de mort. On donnera un petit peu des nouvelles de Biram, ce militant anti-esclavagiste de Mauritanie, qui a été condamné à 2 ans de prison pour uniquement avoir manifesté de façon pacifique contre l'esclavage. Et puis on donnera un petit peu des nouvelles de Digne, du groupe de Digne, et puis de la région au niveau d'Amnesty. Voilà.
Alors, est-ce qu'on commence directement?
Allez, on va parler des minerais du sang et après voilà. On mettra une chanson.
De Lenny Escudero. Alors, qu'est-ce que c'est les minerais du sang?
Alors voilà, les minerais du sang, c'est une expression qu'on a trouvée parce que, en fait, il y a des minerais qui sont très recherchés et qui sont utilisés notamment dans les nouvelles technologies. Par exemple, dans un téléphone portable, simplement, il y a 6 grammes d'étain, 0,80 grammes de tungstène, 0,04 grammes de tantale et 0,6 grammes d'or. Ça, c'est dans un téléphone standard. Or, le commerce de ces minerais peut être à l'origine de conflits ou d'atteintes aux droits humains dans les pays où ils sont extraits. Selon l'enquête d'Amnesty International, 47% des Français seulement le savent. Et ils ne sont que 14% à avoir entendu parler de l'expression « minerai du sang ». Une très large majorité, 87%, déclare ne pas faire confiance aux fabricants de téléphones portables pour communiquer de manière transparente sur ces informations. Et ils sont 66% à affirmer que disposer des informations sur les conséquences et les conditions d'extraction des minerais pourraient influencer leur choix au moment de l'achat d'un téléphone. L'Union européenne est un débouché majeur pour les produits qui contiennent des minerais du sang. En 2013, l'Union européenne était le deuxième importateur mondial de téléphones mobiles et d'ordinateurs. La France en est, quant à elle, le 6e importateur mondial. Alors que le 27 octobre, la France doit présenter pour la première fois sa position sur un projet de règlement européen sur le sujet, le sondage divulgue que 4 Français sur 5 souhaitent que la France se prononce en faveur d'une législation contraignante au niveau européen. Alors quel est ce lien meurtrier entre ces ressources naturelles et les groupes armés? L'exemple de la République démocratique du Congo, de la Colombie, de la Birmanie et d'autres pays. Dans ces pays, les groupes armés tirent profit du commerce de ces matières premières, en particulier des minerais qui servent à fabriquer les téléphones portables et ordinateurs dont nous nous servons tous les jours. L'étain et le tantale, par exemple, comptent parmi les ressources les plus convoitées. Celles-ci financent des forces armées de manière illicite. Ces groupes organisent un commerce opaque et bafouent souvent les droits humains des populations autour des zones d'extraction, de transport et de négoce de ces mineurs et de ces minerais. Esclavage, disparition forcée, meurtre, torture, viol sont autant d'exemples de crimes générés autour de ce commerce. En Colombie, par exemple, les forces armées révolutionnaires tirent jusqu'à 20% de leurs revenus du contrôle du négoce de l'or. D'autres groupes armés contrôlent des mines de tantale ou de wolframite. Jusqu'à présent, entre 4,7 et 5,7 millions de personnes ont été contraintes à des déplacements forcés et plus de 25 000 autres ont disparu. Les Nations Unies ont très tôt identifié ce problème et ont déjà chiffré à 3,8 millions de morts le nombre de personnes ayant péri à cause de ces groupes armés liés aux ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, c'est en Afrique, c'est la RDC, le Rwanda, le Burundi. C'est le moment d'entendre la parole des citoyens car un instrument européen est en préparation. En mars 2014, la Commission européenne a en effet publié un projet de règlement pour lutter contre ce commerce des minerais qui finance des conflits armés. Ce projet prévoyait un système de traçabilité volontaire pour quelque 400 importateurs de minerais. A contrario, le 20 mai dernier, le Parlement européen avait quant à lui voté en faveur d'un règlement européen plus ambitieux qui imposerait un devoir de vigilance, c'est-à-dire des procédures de contrôle à toutes les entreprises liées à ce commerce, y compris celles qui commercialisent les produits finis tels que les ordinateurs, tablettes, voitures, téléphones portables. Entre l'expression du Parlement européen et la voix des Français, et la voix de Français exprimée dans ce sondage, il est temps que la France fasse pression pour obtenir une réglementation contraignante au niveau européen pour rompre le lien criminel entre les ressources naturelles et les conflits. Voilà, donc c'est important. Vous pouvez aller consulter ce sujet sur le site d'amnesty.fr. Voilà, alors on va mettre maintenant une chanson de Lenny Escudero, ce grand chanteur qui nous a quittés, qui a eu une vie aussi de réfugié, hein, puisque dès tout jeune, il a dû fuir l'Espagne. Il le raconte dans une émission où il est tout enfant et il ne veut pas monter dans le camion parce qu'il y a un adulte qui essaye de le faire monter pour le sauver, quoi, parce que ses parents étaient républicains. Et finalement, il l'appâte avec du lait concentré. C'était magnifique à cette époque pour des enfants. Donc il monte dans le camion et puis quand il a fini son lait, il descend du camion et il s'imagine être toujours en Espagne. Donc il se cache. En fait, il est descendu parce qu'il n'avait pas ses parents et il avait perdu ses parents. Il ne savait pas où ils étaient. Et donc, il ne voulait pas partir. Et il se cache pendant plusieurs jours, mangeant des noix qu'il avait trouvées. Et c'est que plus tard qu'il se rend compte qu'en fait, le camion a passé la frontière et qu'il est en France, donc que sa vie n'est plus en danger. Voilà. Donc il a commencé sa vie de réfugié, il le dit dans une de ses chansons d'ailleurs. Voilà, et bon, c'est devenu un très grand chanteur français avec une voix magnifique. Et donc j'ai choisi de passer une de ses chansons.
Tristes et noirs de peau, trop grands et trop petits, l'un s'appelait Sacco et l'autre Vanzetti. De Guy Moquet au vieux Lamar, de Lorca à Daniel Ferry, il n'y a pas qu'au Danemark que quelque chose soit pourri. Que quelque chose soit pourri. Vous marcherez la tête haute dans l'enfer des innocents. Nous oublierons notre faute et la couleur de votre sang. Patrice Lumumba, l'Afrique a émigré. Paris paye ses bras pour se faire une beauté. Tes frères de Soweto meurent en criant ton nom, que tu es mort trop tôt et que l'Afrique est en prison. Et que l'Afrique est en prison. Vous marcherez la tête haute dans l'enfer des innocents. Nous oublierons notre faute et la couleur de votre sang. Vous étiez des millions à tant aimer la vie. J'en demande pardon à tout ce que j'oublie. Le monde a peu changé depuis votre destin. J'en suis à me demander si vous n'êtes pas mort pour rien. Si vous n'êtes pas mort pour rien. Vous marcherez la tête haute dans l'enfer des innocents. Nous oublierons notre faute et la couleur de votre sang. Il n'avait pas 20 ans ce matin-là, Prague, la vie pour un printemps, la mort pour Yann Pala. Ça n'est pas le désert, l'espoir est dans la rue, mais c'est toujours l'hiver, le printemps n'est pas revenu. Le printemps n'est pas revenu. Vous marcherez la tête haute dans l'enfer des innocents. Nous oublierons notre faute et la couleur de votre sang. De Martin Luther King à Bader Ulrichet, mon pauvre Bakounine, tu dois bien rigoler. De Guy Moquet au vieux Lamar, de Lorca à Daniel Ferry, il n'y a pas qu'au Danemark que quelque chose soit pourri. Que quelque chose soit pourri. Vous marcherez la tête haute dans l'enfer des innocents. Nous oublierons notre faute et la couleur de votre sang. Tristes et noirs de peau, trop grands et trop petits, l'un s'appelait Sacco et l'autre Vanzetti. Tristes et noirs de peau, trop grands et trop petits, l'un s'appelait Sacco et l'autre. L'un s'appelait Sacco et l'autre. L'un s'appelait Sacco et l'autre.
Voilà, donc le XXe siècle a connu des crises de réfugiés, des vagues de réfugiés fuyant la guerre. Et le XXIe siècle, ben, ça recommence. Et donc je vais vous livrer le témoignage d'une famille syrienne. Voilà, c'est Sheridan. Sheridan, la maman qui parle et qui dit, voilà, à Alep, nous menions une vie simple. Nous allions travailler, nous préparions à dîner, nous passions du temps avec nos proches. Je jouais de la flûte dans un conservatoire de musique. J'avais de nombreux rêves. Nous mettions de l'argent de côté pour acheter une belle voiture et une grande maison, pour y élever un enfant, rien de bien original. Nous voulions ce à quoi tout le monde aspire. Notre appartement se trouvait juste à la limite entre la zone contrôlée par le gouvernement et celle occupée par l'opposition. Nous avons alors déménagé à la campagne. Il faisait froid, la nourriture était rare et nous n'avions ni eau courante ni électricité. J'étais alors enceinte. Nous ne pouvions pas nous projeter dans l'avenir. Nous arrivions à peine à survivre. Karaman est né le 24 juin 2013. Alors qu'il n'avait que quelques mois, nous nous sommes rendus compte qu'il ne réagissait pas bien à nos mouvements. Un médecin nous a dit qu'il était aveugle et qu'il le serait toute sa vie. J'étais effondré. J'ai décidé de retourner à Alep pour obtenir un second avis. Il m'a fallu 13 heures et j'ai dû traverser une rue où des tireurs embusqués avaient abattu beaucoup de gens. J'ai pris Karaman dans mes bras et j'ai couru. À Alep, Le médecin m'a redonné espoir, mais m'a indiqué que nous devrions revenir régulièrement ici pour faire examiner Karaman. Nous avons alors décidé de rejoindre la Turquie. En Turquie, nous avons vécu des moments encore plus difficiles qu'en Syrie. Nous avons passé 9 mois dans un petit appartement où vivaient déjà 3 autres familles. Eman travaillait toute la journée pour une misère. Nous ne pouvions prodiguer à Karaman les soins médicaux dont il avait besoin. Ce fut le pire moment de ma vie. Ensuite, la famille de Sheridan s'est inscrite auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et a appris qu'elle satisfaisait aux conditions de réinstallation. Un jour, on nous a dit que l'Office national de l'immigration en Norvège voulait nous rencontrer. 2 mois plus tard, il s'est envolé pour la sécurité. Nous avons voyagé léger. Nous n'avons pris que nos biens les plus précieux. L'ordinateur portable où étaient enregistrées les œuvres d'Enan et nos photos, et ma flûte, explique Sheridan. Je me souviens parfaitement du jour où nous avons atterri à Oslo, le 23 septembre 2014. C'était un moment tellement important. Nous étions enfin en sécurité. La Norvège est très différente de la Syrie. Le climat est encore plus froid que ce que nous pensions. Mais quand nous avons déniché des ouvrages kurdes à la bibliothèque, nous avons compris que nous étions dans un pays où la liberté était une réalité. Voilà, donc Herman et Sheridan parlent maintenant couramment le norvégien. Le petit Karaman, qui a aujourd'hui 2 ans, est un peu anxieux quand il est avec d'autres enfants à la garderie en raison de ses problèmes de vue. Mais il ne cesse de parler à sa nouvelle amie Mina et court à toute allure dans l'appartement. Sheridan et Enan ont encore de la famille et des amis en Syrie. J'espère de tout cœur que la guerre va bientôt cesser, dit Enan. Tant qu'elle fera rage, les gens seront contraints de fuir. La communauté internationale doit faire davantage pour y mettre fin. Et Sheridan ajoute, tous les pays devraient accueillir des réfugiés. Le nombre de places par pays devrait être équilibré et équitable. Mes aspirations dans la vie, un travail, l'indépendance, et être aux côtés de ceux que j'aime, dit Sheridan. Une vie normale, à l'abri du danger, c'est aussi simple que cela. Voilà, derrière tous ces chiffres, il y a des milliers d'histoires comme ça, de familles contraintes de fuir les atrocités. On va maintenant passer à un autre sujet. Les pires criminels en vacances en France. Est-ce possible? C'est ce que va nous raconter François Morel.
Vous avez commis un génocide ou un crime contre l'humanité. Je parie donc que vous craignez la compétence universelle. Un dispositif pénal permettant à presque tous les pays du monde de vous juger pour vos crimes. Ah, sale histoire, hein? Mais n'ayez crainte, nous avons la solution. Chez Crapule et Vacances, nous vous ouvrons les portes de notre beau pays. Eh oui, nous avons noué des partenariats privilégiés avec toutes les zones de conflit dans le monde et quelques-unes des plus belles stations balnéaires françaises. Ça, perlipopette, c'est magnifique, mais comment est-ce possible? Eh bien, laissez-moi vous exposer les 4 failles que nous avons identifiées pour vous dans le système législatif français. Assurez-vous de remplir au moins une de ces conditions et à vous, le farniente à la française. Première faille, vos victimes ne peuvent pas porter plainte. En effet, seul un procureur de la République peut vous poursuivre. Sauf que dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Toutefois, soyez prudent. Si vous n'êtes par exemple coupable que de torture, vos victimes pourraient porter plainte. Eh oui, nous sommes une maison sérieuse. Nous n'acceptons que les pires criminels. Deuxième faille, vous n'habitez habituellement pas en France. Alors ne craignez rien, vous ne pouvez pas être poursuivi. Troisième faille, les faits qui vous sont reprochés doivent obligatoirement être punissables par le droit français et la législation du pays dans lequel vous sévissez. En Syrie, par exemple, le crime de guerre n'existe pas. Alors, si vous vous êtes fait quelques ennemis en brûlant ce village au nord d'Alep, la côte basque est faite pour vous. Apprenez le surf et oubliez ces corps calcinés qui troublent parfois votre sommeil. Enfin, la dernière faille vous garantit une quiétude sans pareil. La France se défausse sur la Cour pénale internationale pour savoir qui doit vous condamner en premier. Quand, de son côté, la Cour pénale internationale donne priorité aux États pour poursuivre vos crimes. À moi, toi, toi, à moi. Qui veut la patate chaude? Eh bien, nous. Grâce à Crapule et Vacances, vous savez désormais où couler des jours heureux lorsque vous serez las de décimer des peuples. Chez Crapule et Vacances, nous vous aidons, vous, coupables de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes de guerre, à vous ressourcer grâce aux failles de la législation française. Alors, venez visiter le plus beau pays du monde et oubliez votre passé douloureux. Vive le pays des droits de l'homme, vive les crapules et vive la France. Crapules et vacances, cruauté, impunité, tranquillité.
Voilà, donc vous pouvez réécouter ce spot avec une petite animation visuelle sur le site d'Amnesty.fr. Il y a également une pétition adressée au gouvernement français pour qu'il supprime ces restrictions. Parce que la lutte contre l'impunité, c'est essentiel pour que les dictateurs dans aucun pays ne puissent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent sans jamais être inquiétés. Voilà, donc allez sur le site d'Amnesty.fr et venez signer la pétition pour que la France ne soit pas le lieu privilégié des dictateurs en fuite. Voilà, maintenant, je vais vous donner quelques résultats et puis quelques avancées. Donc, au Maroc, nous avons fait des signatures pour Wafa et Oussama, qui avaient été condamnés à 2 ans d'emprisonnement. Et on a obtenu 200 000 signatures pour demander leur libération immédiate. C'était des personnes qui avaient protesté contre la torture utilisée contre elles. Et qui, pour cela, s'était retrouvé en prison. Ensuite, on a eu 280 000 personnes qui ont soutenu une demande d'un accès sûr pour les réfugiés. Ce que demande Amnesty, donc, c'est renforcer les capacités d'accueil d'urgence dans les États frontières de l'Union européenne, participer dans l'immédiat pleinement à la répartition équitable de l'accueil des réfugiés qui arrivent en Europe, dans le cadre du plan de relocalisation, acter un mécanisme durable et plus équitable de partage de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, une réponse stratégique et humaine de la part des dirigeants européens est plus qu'urgente pour assumer nos responsabilités et protéger des personnes qui fuient les violences cauchemardesques. On a une distinction qui est donnée par un collectif de mouvements des droits humains. Donc dans le jury, il y a Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, l'Organisation mondiale contre la torture, Frontline Defenders, la Commission internationale des juristes, etc. Et chaque année, on remet des prix, le prix Martin Ennals. Alors cette année, le prix Martin Ennals pour les défenseurs des droits humains a été décerné le 6 octobre. Ce prix vise à mettre en lumière le travail d'hommes et de femmes engagés et de les protéger en les mettant en lumière. Depuis 2006, Amen Mansour se concentre sur des initiatives touchant à la liberté d'expression et aux droits civils et politiques. En 2006 et 2007, il a notamment mené une campagne fructueuse en soutien à 2 personnes emprisonnées pour avoir formulé des critiques sur la situation sociale des Émirats arabes unis. Cette campagne a abouti à la libération de ces 2 personnes et à la levée des charges qui pesaient contre elles. Peu après, le Premier ministre a donné l'ordre de ne pas enfermer les journalistes en raison de leur travail. Ahmed Mansour est l'une des rares voix aux Émirats arabes unis qui s'élève pour fournir une évaluation crédible et indépendante des développements relatifs aux droits humains. Il fait régulièrement part de ses préoccupations concernant les détentions arbitraires, la torture, le non-respect des standards internationaux pour des procès équitables, le manque d'indépendance de la justice et la violation du droit international par les lois nationales. Intimidé et harcelé à de nombreuses reprises, il a été emprisonné en 2011 après avoir été reconnu coupable d'avoir insulté les autorités. Il a ainsi été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans, bien qu'il ait été libéré après 8 mois. Dès lors, il est privé de passeport et une interdiction de voyager a été prononcée contre lui. Le jury du prix Martin Ennals a publiquement demandé au gouvernement des Émirats Arabes Unis de lever cette interdiction et de lui permettre de voyager à nouveau. Voilà, donc c'est lui qui a reçu cette année ce prix. Et il y a deux autres finalistes qui ont reçu des récompenses. Asmaou Diallo de République de Guinée pour son combat pour les droits humains qui a commencé suite aux événements de septembre 2009 lors de l'attaque de manifestants pacifiques par l'armée guinéenne. Elle a fondé l'association des parents et amis des victimes du 28 septembre 2009 qui vient en aide à ces personnes affectées et qui les aide à témoigner lors de procédures judiciaires. Et puis, une autre récompense à Robert San Ong du Myanmar. Depuis 1974, il lutte courageusement contre les violations des droits humains. Emprisonné à maintes reprises dans des conditions difficiles, il a été physiquement attaqué ainsi que régulièrement menacé. Il a été radié du barreau en 1993 jusqu'en 2012. Il représente actuellement des étudiants emprisonnés pour avoir manifesté pacifiquement. Voilà, donc c'est des trois défenseurs des droits humains qui sont récompensés. Et cette mise en lumière, c'est aussi une façon de les protéger. Voilà. Ensuite, j'en étais où ? Voilà, excusez-moi, je me perds un peu. Voilà, en Égypte, une bonne nouvelle, les journalistes d'Al Jazeera sont libres. Ces deux journalistes pour lesquels nous avons envoyé des actions urgentes et fait signer les pétitions ont été libérés le mercredi 27 septembre. Et d'ailleurs, on a reçu un courrier de remerciement à tous les militants d'Amnesty et tous les gens qui ont œuvré pour leur libération. Encore une bonne nouvelle, une marche des fiertés sans violence homophobe à Belgrade. Pour la première fois en Serbie, aucun incident homophobe n'a été signalé pendant la marche des fiertés. Sous haute protection policière, la marche avait mobilisé des centaines de personnes. Voilà, c'est à signaler parce qu'il y avait énormément de violence dans ces manifestations pour les droits de ce qu'on appelle les LGBT. Hein. Voilà. C'est-à-dire tous ceux qui... les lesbiennes, les gays, les transgenres, etc. qui sont souvent dans de nombreux pays violentés à cause de leur orientation sexuelle. On voit donc que là, ça évolue dans le bon sens. En Inde, la justice ordonne la protection de la famille Dalit de Bagpat. La Cour suprême a reconnu la situation de vulnérabilité de cette famille dans l'état d'Uttar Pradesh, qui a fui son village parce qu'elle craignait de subir une discrimination et des violences liées au système de caste. Voilà, donc c'est encore quelque chose que l'on demandait, que l'on vient d'obtenir. En France, il y a une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales qui avait été oubliée de l'agenda parlementaire lors du Conseil des ministres du 2 septembre dernier. Elle est revenue sur le devant de la scène grâce aux sénateurs socialistes qui l'ont inscrite le 9 septembre 2015 à l'ordre du jour. Donc, bravo aux sénateurs. Et puis, on a obtenu 38 000 signatures pour les écoliers roms en République tchèque. Ces écoliers qui étaient discriminés dans leurs écoles. Ces derniers étaient exclus du système scolaire classique. La majorité d'entre eux sont scolarisés d'office dans des établissements spécialisés ou dans des classes réservées aux Roms. Donc voilà, on espère que ces importantes signatures feront évoluer les choses. Peut-être qu'on pourrait mettre une deuxième chanson de notre ami Lenny Escudero.
Il faut vivre pour un peu d'amour. Il faut vivre et garder toujours sa confiance,
sans désespérer, car la chance un jour va passer. Il faut vivre pour la retenir, il faut vivre pour qu'à l'avenir, sans attendre, tu sois toujours prêt à la prendre pour en profiter. Il faut vivre pour un peu d'amour, il faut vivre et s'aimer d'amour. De ta vie, plante pas d'amandier, faut d'autres vies pour le voir pousser. Il faut vivre sans perdre de temps, il faut vivre et garder longtemps sa jeunesse. Et malgré les ans, la tendresse qu'on donne à 15 ans, il faut vivre malgré le chagrin que la vie t'apporte demain. Il faut vivre pour un peu d'amour, il faut vivre et s'aimer d'amour.
Voilà notre ami Lenny Scudero. Alors la première chanson, Sacco sur Sacco et l'autre, Sacco et Vanzetti, c'était donc deux personnes qui ont été reconnues innocentes, mais ils avaient été exécutés. Hein. Voilà, donc c'était, ils venaient agrandir la liste de tous les innocents qui ont été exécutés par l'État dans ce qu'on appelle la peine de mort, qui est l'un des pires crimes contre l'humanité d'État à froid. Voilà, alors le 10 octobre, c'était la journée mondiale contre la peine de mort. Et en même temps, on avait une triste nouvelle, c'est que, venu du Japon, Okunishi Masaru est décédé à la prison médicale le 4 octobre dernier à l'âge de 89 ans. Il n'a cessé de clamer son innocence et était résolu à solliciter un nouveau procès. Ses 8 précédents recours pour un nouveau procès avaient été rejetés. Voilà, il n'a pas été conduit au gibet, mais le système judiciaire japonais a totalement manqué à ses obligations envers cet homme. Il est scandaleux qu'il se soit vu refuser le nouveau procès que son affaire méritait incontestablement et qu'on l'ait laissé croupir pendant 46 ans dans le quartier des condamnés à mort. Je vous rappelle que cet homme avait été condamné sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Lors de son procès en première instance, il est revenu sur ses aveux. Il a été acquitté en raison du manque de preuves. Toutefois, une juridiction supérieure a annulé le jugement et l'a condamné à mort. Voilà, donc ça a été terrible pour lui, 46 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis, à attendre chaque jour, savoir si ça allait être ce jour-là. Et il a fini par mourir à 89 ans dans ses prisons. Alors le 10 octobre, il y a eu aussi l'interview de Robert Badinter sur France Inter. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'il a dit. Donc son bilan pour 2015, il trouve que les progrès relatifs à l'abolition de la peine de mort sont au-delà des espérances qu'il avait. Quand en 81, il a contribué grandement à l'abolition de la peine de mort par la France. La France était alors le dernier État européen occidental à abolir cette peine de mort et le 35e pays à le faire. Sur la scène internationale, 189 États aux Nations Unies, il y en a 100 qui ont aboli la peine de mort, 50 y ont renoncé. Il en reste donc 48 à convaincre. Et tous les deux ans, un moratoire est présenté sur les exécutions. C'est-à-dire que l'ONU demande que les États n'exécutent pas de condamnés à mort. En Europe, il reste une dictature stalinienne, la Biélorussie, qui est le seul État européen à recourir à la peine de mort. On constate cependant un durcissement au Moyen-Orient, notamment chez les Iraniens chiites, les Saoudiens sunnites. Les condamnations à la peine de mort dépassent celles en Chine si on prend la proportion de la population. En Chine, le régime totalitaire, le mouvement abolitionniste cependant très présent dans certains milieux. La peine de mort a diminué, mais cela reste un secret d'État. On n'a pas les chiffres véritables. Dans le monde musulman, de nombreux pays tels que la Tunisie n'ont plus recours à la peine de mort. Et le président tunisien confirme être abolitionniste. Cependant, pour lui, il n'est pas question d'inscrire l'abolition dans la loi ou la constitution, car cela servirait les intérêts des islamistes intégristes. Donc on attend pour savoir quel est le premier pays du monde musulman qui va abolir ce châtiment cruel, inhumain et dégradant, encore pratiqué aux États-Unis, mais pas dans tous les États. Il y a 19 États qui ont aboli la peine de mort, et elle reste pratiquée essentiellement dans les États du Sud, le Texas, la Virginie par exemple. Mais c'est quand même une société qui, petit à petit, va vers l'abolition. Le nombre des condamnations, d'exécutions et d'États qui abolissent est en constante augmentation. La situation actuelle devient inextricable pour ces États où demeurent des milliers de condamnés à mort depuis plus de 10 ans. C'est pour cette raison que la Cour européenne des droits humains indique qu'aucun État européen ne doit livrer aux États-Unis des ressortissants susceptibles d'être condamnés à mort. Alors à la question qu'on lui demandait par rapport aux 52% des Français qui sont favorables au rétablissement de la peine de mort, voilà comment il a réagi. Alors de la part des politiques, pour lui c'est pure démagogie, car l'abolition de la peine de mort étant inscrite dans la Constitution, il faudrait recourir à une révision constitutionnelle. De surcroît, la France est liée par les pactes internationaux et la Convention européenne des droits humains. Le président de la patrie des droits de l'homme devrait dénoncer ces textes. On ne peut pas sortir de l'Union européenne et les politiques qui proposent une abolition de la peine de mort sont des menteurs, sauf à vouloir établir un pouvoir dictatorial totalitaire. Quant à l'opinion française, les courbes des sondages depuis 1980 sont en diminution constante, sauf quelques pics au lendemain de crimes atroces. Voilà, donc c'est un petit peu le résumé de l'interview qu'a donné M. Robert Badinter sur France Inter le 10 octobre lors de la journée mondiale contre la peine de mort. Voilà, maintenant on va passer à une musique, la Tarantella. C'est une musique qui a été utilisée dans le film de Philippe Claudel, Tous les soleils, je vous conseille vraiment de voir ce film qui est assez extraordinaire. Et la musique est magnifique. Luna, lunella, lupana, fella, fella, lumina, canna, terzo. Luna, lunella, lupana, fella, fella, lumina, canna, terzo. Luna, lunella.
E la notte scendigliosa, tutta vibra l'ondiglia. lunetta, rubano fedda fedda, rubino canna fedda, luna lunetta, luna lunetta, rubano fedda fedda, rubino canna fedda, luna lunetta. Ali 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 chi ti vengo con amore, con amore ti chiamo, uno lui e via qua. Ali 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 chi ti vengo con amore ti chiamo, uno lui e via qua.
E andiamo in roba. Paletta, paletta, signora Maria, hai una figlia che sa giocare al 30 di cavola, cacca a tuo, cacca a tuo.
Mari, cumari, cumari, nido, in tracci hai un pellegrino che mi fa ballare sopra la luna, di fedeltà per te corso luna, che mi fa ballare sopra la luna, di fedeltà per te corso luna. Luna lunetta, rubana fedda fedda, luna canna tenda, luna lunetta,
voilà, magnifique musique, la tarentelle. Je vais vous donner quelques nouvelles de Biram Dahabé. Alors Biram Dahabé, j'en ai plusieurs fois parlé à cette antenne. C'est un militant des droits humains mondialement connu puisqu'il a eu le prix des droits de l'homme de l'ONU, le prix Frontline Defenders, pour son combat contre l'esclavage qui persiste sous des formes modernes, mais aussi sous les formes, comme nous connaissions au Moyen-Âge, de personnes qui appartiennent au maître et qui sont considérées moins que du bétail. Et donc, il lutte depuis très longtemps contre l'esclavage en Mauritanie. Et lors d'une manifestation pacifique, il a été arrêté et condamné à 2 ans de prison. Voilà, donc la Mauritanie, au lieu de condamner les esclavagistes, condamne les militants des droits humains. Et ça fait maintenant 1 an qu'il est en prison. Et nous sommes vraiment très très inquiets quant à sa santé, parce qu'il a des troubles de la vision, il a des problèmes au dos, des douleurs au dos, des douleurs dans une des jambes. Et à force de demandes, des médecins sont venus l'ausculter et on dit que son état de santé nécessitait une hospitalisation. Mais le pouvoir en Mauritanie refuse de transporter Biram dans un hôpital afin qu'il soit examiné, qu'il ait un scanner. Et donc le pouvoir du dictateur Aziz qui protège les esclavagistes est terrible envers Biram. Je ne sais pas s'il était en colère que Biram se soit présenté aux élections contre lui ou qu'il ait refusé toutes les propositions financières que le président lui proposait. Mais dans tous les cas, il a juré que Biram ne verrait plus le soleil. Et c'est ce qui arrive. Hein. Depuis 1 an, il n'a pas vu une seule fois le soleil. Il est enfermé dans des conditions terribles avec son vice-président. Et sa situation, son état de santé nous inquiète énormément. Et nous espérons que les autorités françaises qui suivent le dossier vont faire pression pour que cet homme, grand militant des droits humains, soit libéré le plus vite possible et qu'il puisse aller se soigner et puis voir retrouver sa famille et dont sa dernière petite fille qui est née et qu'il a pu voir que très peu de temps dans sa cellule. Voilà. Alors en même temps, puisqu'on parle de l'esclavage, je vous signale la sortie d'un livre qui s'appelle Le prix de la liberté, aux éditions Parole, qui est une petite maison d'édition, mais très connue dans la région. Hein. C'est cette maison d'édition qui a sorti notamment L'Homme Semence, hein, cette extraordinaire histoire. Ou alors Pierre Souhaité, c'est un membre d'Amnesty International qui fait partie du groupe de Digne, mais qui est membre d'Amnesty depuis très longtemps, puisqu'il a travaillé en Savoie, il était déjà membre d'un groupe de Savoie, puis il a travaillé en Guadeloupe, et en Guadeloupe, il a rejoint bien sûr le groupe de Guadeloupe, et c'est en étant là-bas qu'il s'est intéressé à la mémoire des Guyanais, et à cette partie de notre histoire qui est très méconnue, c'est le rétablissement de l'esclavage par les troupes de Napoléon Bonaparte en 1802. Voilà, alors il s'est renseigné et son livre est d'une richesse incroyable. Vraiment, je vous le conseille. Ça s'appelle « Le prix de la liberté ». Vivre libre ou mourir. Voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. En 1792, Victor, donc c'est son personnage central, est hussard de la Révolution dans la Légion du Chevalier de Saint-Georges, troupe constituée de Noirs, de Créoles et de quelques Blancs. Comme ses compagnons, il se bat pour défendre la jeune République. En 1802, il fait partie des troupes envoyées par le consul Bonaparte pour rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Il se sent alors trahi. Ses rencontres, ses fortes convictions républicaines et humanistes, la beauté de la nature, lui permettent de ne pas sombrer et de ne pas trahir ses convictions. D'ailleurs, en lisant ce roman historique, vous voyez donc l'évolution historique des combats, et puis en même temps, vous découvrez, avec Pierre Souhaité, la richesse de la nature, ça donne vraiment envie d'aller visiter la Guyane. Voilà, ce roman historique, Le prix de la liberté, c'est d'abord un cri d'indignation. Si le souffle d'une colère à peine contenue courbe parfois les phrases, c'est que ce roman parle d'un des moments noirs de l'histoire de France. Nous y entendons cette phrase terrible, la liberté ou la mort, que le dernier carré de résistants commandé par le colonel de Grèce crie avant de se donner une mort collective. Pour l'auteur, c'est l'occasion de souligner qu'à plusieurs moments de l'histoire de France, les armées de la liberté ont été utilisées à des fins de répression de cette même liberté. Voilà, donc il revient au cours de son roman sur tous ces faits où ces gens se sont engagés dans l'armée au nom de la liberté et on les a contraints ensuite, par la suite, à faire des actions qui allaient à l'encontre de cette liberté. Voilà, donc je vous conseille vivement ce roman historique. Donc je vous rappelle, c'est de Pierre Souhaité. Ça s'appelle « Le prix de la liberté », c'est aux éditions Parole. Et vous pouvez le trouver dans les librairies, les bonnes librairies, ou le commander, ou le faire commander. Voilà. Alors maintenant, un petit peu des nouvelles de Digne et de la région. Alors demain, mardi 27 octobre à 18h, c'est la réunion du groupe Dinois dans la salle, une des salles des associations à la mairie de Digne. Il y a une très bonne nouvelle là dans la région, c'est que une antenne jeune lycéenne est en création au lycée Pierre-Gilles de Gênes. On a deux jeunes lycéens qui ont passé le week-end dernier au siège d'Amnesty avec la documentaliste du lycée Pierre-Gilles de Gênes aussi, qui était invitée, à participer donc au week-end des antennes jeunes. C'est-à-dire tout un ensemble de jeunes venus de toutes les régions de France se sont retrouvés pour mieux connaître le mouvement, puisqu'ils étaient au siège, donc ils ont eu une formation sur Amnesty International, ils ont visité les locaux, les coordinations des pays, les commissions, l'organisation du mouvement, tous les salariés, les bénévoles qui travaillent tous les jours à Paris. Et puis en même temps, ils ont échangé entre eux, fait des projets. Et voilà, et nos deux jeunes Dinois reviennent gonflés à bloc. Et ils ont déjà des contacts avec d'autres lycéens dans leur propre lycée et puis dans d'autres lycées de Digne, notamment au lycée d'Avinel, où il y a d'autres jeunes qui veulent les rejoindre. Et voilà, alors pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a besoin qu'il y ait des jeunes qui nous rejoignent. Hein. Amnesty International est un mouvement où il y a beaucoup de têtes blanches, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Et tous ensemble, nous travaillons dans le même objectif, le respect de la dignité humaine. Et les jeunes nous apportent leur entrain et de nouvelles formes de militantisme. Donc, c'est un grand plaisir et j'espère que la prochaine fois, ils pourront venir sur ce plateau parler de leur antenne jeune. Voilà, alors vous savez que Amnesty Digne, on fait des fois au livre régulièrement. Nous ne sommes pas les seuls et je vous annonce que le groupe de Pertuis, alors c'est pas très loin, à la fin du mois va faire sa foire au livre. Alors pour tous les amateurs de livres et en même temps ceux qui veulent soutenir les actions d'Amnesty, je vous invite à vous rendre le vendredi 30 octobre jusqu'au dimanche 1er novembre de 10h à 18h. À la foire aux livres du groupe de Pertuis, dans la chapelle de la Charité. Donc c'est à Pertuis. Et vous avez vraiment des milliers de livres. Je crois qu'ils en ont encore plus que nous. Et donc si vous aimez la lecture, allez faire un tour à la foire aux livres de Pertuis. Le 7 novembre, le groupe d'Amnesty sera sur le boulevard Gassendi, près de la maison de la presse, pour vendre ses calendriers 2016, ses agendas, des albums pour enfants qui peuvent faire de très très beaux cadeaux de Noël et des cadeaux intelligents, puisque ce sont des albums qui ont un rapport avec la liberté, les droits humains, la dignité humaine, la lutte contre le racisme, etc. Et puis on aura aussi des cartes de vœux et bien sûr, comme toujours, des pétitions à signer. Donc nous serons le samedi 7 novembre de 10h à 12h30 sur le boulevard Gassendi. Donc venez nombreux nous voir et signer nos pétitions et peut-être nous aider en achetant un calendrier ou un agenda ou des albums. Enfin, le 22 novembre, alors là c'est nos amis de Gap, ça fait un peu plus loin mais c'est toujours dans la région, à Baratier, près d'Embrun. La chorale qui s'appelle Le Cœur du Rock est une chorale d'Embrun qui donnera un concert au profit d'Amnesty International à 17h à la salle de la Baratonne à Baratier, à côté d'Embrun. Voilà pour les nouvelles de Digne et de la région. Maintenant, nous allons terminer cette émission en retournant écoutez un autre morceau de la Tarantella, Silenzio d'amore, silence d'amour.
Da mai di quando stavi dentro la nave, vai tu scizza, mordi che mordi. Silenzio d'amore che cammini tra le vine, non è possibile staccarmi di te. Silenzio d'amore che cammini tra le vine, non è possibile staccarmi di te. Alberi d'olive, amori e beni vengono di lontano. Delizia, vada mia, sciaro di l'arma mia, dammi l'uborica di dugno la vita. Delizia, vada mia, sciaro di l'arma mia, dammi l'uborica di dugno la vita. vacante senza colura tengo senso. Quando una mamma si scorda suo figlio, tanto mi scordo da malattia. Ti voglio bene, piccirida mia, tanto mi scordo da malattia. Ti voglio bene, piccirida mia. Cantati cimenti, c'è morte e vita, come tutto il mondo, esti la campagna, tu sei regina, e io pure di Spagna, come tutto il mondo, esti la campagna, tu sei regina, e io pure di Spagna.
Voilà. Alors avant de vous quitter, exceptionnellement, notre émission de fin novembre aura lieu début décembre. Voilà, donc nous ferons l'émission le lundi 7 décembre à la même heure.
C'est-à-dire 16h30.
Voilà. C'est-à-dire 16h30, mmh. Voilà, lundi 7 décembre à la place du 30 novembre, où je serai absent. Donc on reporte au lundi 7 décembre pour la dernière émission de l'année, et on réattaquera en janvier.
Merci Régis Coulanges pour cette émission de qualité sur les droits humains. Chaque dernier lundi du mois, et là donc au mois de décembre, le 7 décembre, lundi 7 décembre. Bonne soirée et puis à bientôt.
Shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer. You'll go down in history.